l'autrice, sociologue du travail, trace des pistes pour que se mette en place un système de sécurité sociale chômage juste et solidaire. Voilà, et vendredi 15 mars, à 19h, toujours à la librairie du Monde Libertaire, à Publico, les femmes auront des noms de fleurs, un concert de Bertrand Ferrier à partir du répertoire de Mama Béa avec Sébastien Defiol et Claudio Zaretti, guitare. Voilà, portrait de femmes, cris de révolte, chanson d'espoir, un voyage dans le répertoire bouleversant de Mama Béa Tchaïkovski. Voilà, Tchaïkovski. C'est à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e métro République, Oberkampf, fille du calvaire. C'est le Mars féministe, voilà. Et maintenant, dans un instant, ton père sur les planches. Aujourd'hui, la tempête arrive à Dukreben. Alors, c'est Thomas d'Hambourg et aujourd'hui un petit voyage, mais pas très loin de chez nous. Alors, comme je dis, on va aller à Dukreben et il y a un trio dans le studio qui va nous expliquer où ça se trouve, n'est-ce pas? Sasa Mercury, je te salue. Bienvenue dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire.
Merci.
Et tu étais venu il y a quelque temps, tu nous as parlé des Roms et d'un phénomène que l'anti-tziganisme, etc. Et tu es un peu assez engagé là dans ces questions, pas seulement, mais entre autres. Donc, tu vas nous présenter un projet, une installation, un projet artistique autour de la vie des Roms, et ça s'appelle Dukreben. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est, Dukreben?
Alors, Dukreben, c'est une recherche-création qu'on a menée de 2018 à 2020 sur ce qu'on appelle dans le jargon administratif un terrain stabilisé en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus particulièrement. Donc, on a mené cette recherche-création avec une équipe de chercheurs des allumeurs. Avec les populations qui y vivaient, qui étaient donc les habitants et habitantes de ce terrain, qui étaient des personnes roms qui avaient en fait itinéré dans plusieurs bidonvilles de Saint-Denis et qui sont arrivés en 2017 sur un terrain municipal, le terrain Voltaire, sur lequel la municipalité, l'État et l'agglo, pleine commune, a introduit une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour le relogement des familles sur un temps donné. Et c'est dans ce contexte, nous, qu'on est arrivé en 2018, donc pour faire, pour recueillir le témoignage des premiers concernés sur cette expérimentation sociale, sur ce dispositif, de leur point de vue à eux. Et c'est ce qu'on rencontre dans cette installation qu'on présente au festival Printemps des Humanités au campus Condorcet en mars, le 21 mars. Donc voilà.
Mais d'habitude, nous, on parle ici de spectacle. Vivant là, on n'est pas tout à fait dans le domaine du spectacle, mais c'est de toute façon, Tempête sur les planches est aussi un terrain ouvert aux expériences. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience sur ce terrain ?
Alors, on a... la première année était un peu décontenancée, à vrai dire. On a essayé surtout de rencontrer les gens, de tricoter de la relation pour que quelque chose se passe, en fait, parce que comme on travaille de manière très expérimentale, on sait jamais... Enfin, on invente, en fait, ce qu'on fait au fur et à mesure avec les personnes qu'on rencontre sur notre route. Ça s'est fait de différentes manières, de manière un peu frontale, sous forme de... parfois d'entretien, de recueillir la parole de ceux qui voulaient nous la confier, mais aussi de choses plus d'approches plus sensibles, qui relevaient plutôt de la co-création. Je sais pas, Alice, peut-être que tu veux en parler, parce que toi, tu as été très présente sur les
moments
justement de co-création.
Oui, tu es venue avec deux personnes, tu peux nous les présenter.
Oui, bien sûr. Alors, on est avec Alice Nicolas, qui est travailleuse de l'art, et notamment avec l'équipe des Allumeurs. Et puis, nous sommes aussi avec Emeline Zoukbédé, qui est chercheuse en sciences sociales à l'Institut Convergence Migration, qui est un partenaire de ce festival Printemps des Humanités.
Oui, du coup, moi je travaille avec les Allumeurs et j'ai notamment fait partie de cette création du Crében pour laquelle on a eu ces temps, comme expliquait Zaza, de co-création. L'idée, c'est que nous, on venait avec nos outils artistiques, la musique, le dessin, l'image, et sans être dans une transmission de ces outils artistiques, l'idée, c'était plutôt de les utiliser tous ensemble et de voir ce qu'on pouvait créer à partir de ces outils et de réfléchir aux questions théoriques. Qu'est-ce que c'est d'habiter sur ce terrain qui a une situation particulière, comme tu l'expliquais. Mais cette fois, au lieu de les réfléchir théoriquement, d'essayer de faire advenir du sensible et de voir notamment quelles images pouvaient venir de ces temps collectifs de création. Et en ce qui me concerne... J'ai plutôt amené des outils qui sont ceux de la photographie argentique. On a créé un petit laboratoire photo qui était un laboratoire de création sur le terrain parce qu'il y avait une baraque qui nous a été mise à disposition. Je pense que ça, c'est intéressant de le dire. Pour expérimenter dans cette baraque et donc qui était identifiée par les personnes qui habitaient sur le terrain comme un lieu dans lequel il se passe tout le temps des nouvelles choses et dans lequel on peut venir essayer tout un tas de choses différentes et pour créer ensemble.
Ouais. Alors quand vous créez ensemble, est-ce que c'est avec les Roms aussi ?
Oui, là du coup c'est vraiment un espace qui est sur le terrain et duquel on ouvre la porte et là tout à chacun peut venir, peut venir y créer des choses. Et l'idée, c'était de tisser du lien avec les personnes qui habitaient sur le terrain. C'était vraiment l'idée de les inclure et de faire ensemble.
Et c'était une manière aussi de rendre compte dans l'installation de choses qui en rajoutaient pas une couche sur la stigmatisation, en fait. Parce qu'on aurait pu proposer une exposition photo. On a énormément documenté ce projet. On a, je sais pas, 500 photos. On a des kilomètres de rush. Mais en fait, on s'est questionné sur la manière dont, enfin, le risque que ça avait de restigmatiser ces personnes avec la question de la relégation, de l'ostracisation, etc. Et là, ça permettait de parler de ce terrain, ben, de leur point de vue à eux, avec ces co-créations, et de manière plus symbolique, en fait. Donc, sur des images moins stigmatisantes que le terrain.
Alors, ce qu'on va voir, ce que vous proposez, c'est des images, c'est les photos, et comment, ou avec quoi autour.
Oui, comme tu disais, Zaza, l'idée, c'était pas forcément que ce soit des images qui documentent la vie du terrain, parce que on n'est pas forcément à même de documenter cette vie, et d'autant plus en tant que personne qui n'y habitait pas. C'est plutôt du coup des images qui sont des espèces de superpositions aussi. Enfin, je pense notamment du coup aux images qui ont été faites avec les techniques argentiques, pour lesquelles on a vraiment joué sur cette question de la superposition des images que nous on avait pu prendre, qui étaient ensuite retravaillées ensemble, et notamment avec des impressions sur du papier transparent pour pouvoir vraiment faire des couches d'images et de représentations. Et en tout cas, dans l'aspect photographique, c'est vraiment ça qui est ressorti. Il y a aussi dans l'installation des textes.
Ouais, il y a un volet. Bon, alors en art contemporain, c'est vraiment un gros mot, mais un aspect pédagogique où effectivement on propose des pistes de réflexion aux regardeurs pour mettre en perspective ce qui est exposé, en fait, dont des textes de chercheurs, de chercheuses, de sociologues, de politologues, de poètes, voilà, qui permettent de penser un peu différemment ce qui est exposé, ce qui est mis en situation. Mais en fait, cette installation, c'est une espèce de mosaïque de traces, de pistes, de fragments de moments, notamment de moments de rencontre, de polyphonie de points de vue, parce que les gens du terrain, ils prennent la parole. Donc voilà, c'est aussi la mosaïque de nos tâtonnements, parce que je veux dire, c'est pas une science exacte d'intervenir sur un terrain, sur un endroit où on connaît pas les codes, où on connaît pas les gens, on connaissait pas du tout le contexte de la mousse non plus. Donc voilà, on essaye de restituer dans cette installation toutes ces traces, sans être dans quelque chose qui soit linéaire, en fait, mais quelque chose qui soit plutôt de l'ordre du symbolique, en fait.
Donc, de quelle façon est-ce qu'il y a de la parole ? Elle est écrite, on l'entend ?
Ouais, il y a de la vidéo, il y a un gros dispositif vidéo, un petit dispositif audio, il y a un musée des stéréotypes sociaux et des mythes identitaires, qui est un dispositif plastique. Et puis après, on a prélevé deux éléments du terrain, qui sont la couverture, voilà, qui est un élément récurrent de l'installation, et les chaussures, notamment les chaussures des petites filles, qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Voilà, c'est ces deux éléments de l'infraordinaire, j'ai envie de dire, qui ont été prélevés, voilà, et qu'on retrouve dans cette installation.
Donc, vous avez travaillé ensemble, ou sous le regard de la personne qui vous accompagne ici ?
Alors, effectivement, Adèle Sutre, en tout cas, de l'Institut Convergence Migration, qui est une chercheuse historienne, a fait partie de l'aventure du Kreben, vraiment aux prémices de cette aventure, en 2011. Donc elle était déjà là, à ce moment-là, à nos côtés. Et on la retrouve dans le cadre de ce festival, de ce festival Printemps des Humanités, dont l'ICM est partenaire, en fait. Et Emeline vient nous parler de ce partenariat avec le Printemps des Humanités.
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et je suis contente d'être là. Alors, Adèle s'excuse, elle ne pouvait pas être là. Justement, elle revient d'une mission de terrain en Arizona. Elle a eu la chance de pouvoir s'extirper un peu de la grisaille parisienne. Et donc, voilà, je suis là ici pour représenter l'Institut et pour parler aussi de la manière dont l'Institut prend part à ce Festival des Humanités. Mais je pense qu'on y reviendra en fin d'émission, qui aura lieu du 21 mars au samedi 23 mars 2024 sur le campus Condorcet à Aubervilliers. Donc, pour la petite info, le campus Condorcet, il a été créé, on va dire, à la fin des années 2010, 2016, 2017, et réunit différents laboratoires et différents laboratoires, hein, principalement, de recherche en sciences sociales. Et donc, nous avons aussi un institut sur ce campus qui est l'Institut Convergence Migration, qui est un institut qui s'est monté en 2017, qui est lauréat d'un projet d'avenir. Bon, je vous passe un peu les détails du mode de financement de la recherche par projet actuellement. Et voilà, donc c'est un institut qui est conçu avec 8 institutions partenaires, dont le CNRS, hein, piloté principalement par le CNRS, et qui a pour objectif de réunir différents chercheuses et chercheurs qui étudient le fait migratoire dans les sciences sociales françaises. Et donc, on part aussi bien de terrains français que des terrains européens, mais aussi de terrains à l'international. Il a cet objectif-là, premièrement, et donc de donner de la visibilité à toutes les mobilités internationales, à ce qu'on appelle les migrations internationales, mais aussi dans une volonté de allier sciences-société. Et l'important de cet institut, notamment d'être à Condorcet, c'est de pouvoir faire un lien avec le territoire, qui est celui de la Seine-Saint-Denis, celui d'Aubervilliers. Et donc, tout naturellement, c'est que cet institut prend part au Festival des Humanités. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que notamment dans l'association qu'a fait le département, alors il fonctionne avec 5 départements thématiques, dont les 2 départements qui ont en fait ont proposé ce projet au printemps des Festival des Humanités, pardon, qui sont les départements santé, donc ça réunit des différents chercheurs qui travaillent sur la santé des personnes en mobilité, mais aussi le département global, dont Adèle Sutre justement est coordinatrice scientifique et chercheuse. L'idée de ce qu'elles ont proposé, en fait, mes deux collègues, c'est justement vraiment à l'image de l'ICM, c'est de faire un dialogue entre sciences, société et aussi monde artistique, et de présenter, de donner à voir comment on peut réfléchir finalement aux questions de mobilité, aux questions de santé, comment on peut les mettre ensemble, les mettre en mots, les mettre en photographie. Et l'Institut est vraiment, vraiment très enthousiaste de participer à ce projet.
Alors, Aubervilliers, c'est effectivement une commune où la migration a une présence forte, où beaucoup de communautés se croisent.
60, je crois.
Ouais.
120 langues, 60.
Ouais. Et ce festival, Printemps des Humanités, rappelez-nous encore, ou dites-nous, qui l'organise et qu'est-ce qui l'englobe ?
Alors, c'est le campus Condorcet, hein, qui l'organise, donc ce gros pôle de recherche en sciences humaines et sociales dont vient de nous parler Emeline. C'est sa première édition. Et c'est une réponse des sciences humaines et sociales aux grandes questions sociétales qui donnent à la fois la parole aux chercheuses et aux chercheurs et aux citoyens, et qui replace la rigueur de la recherche sciences humaines et sociales, SHS, dans le débat public, et voilà, qui propose des clés de compréhension à un public qui serait en quête de réponses et de connaissances face aux tensions et aux crises sociales, politiques, environnementales dans le monde. Et il s'imagine à un carrefour des savoirs, des expériences, des interrogations de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent participer, échanger et débattre autour de ces enjeux de société. Et cette année, la thématique de cette première édition, c'est « Prendre soin ». Voilà, et c'est donc du 21 au 23 et mars. Il y aura des grands entretiens avec des chercheurs et des chercheuses renommées, des discussions, des débats, des restitutions, de recherche-création, des spectacles vivants. Il y a une programmation avec Ville et Musique du Monde de concerts incroyables, des performances, du théâtre, des expos, voilà. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tous et à toutes.
Oui, et votre installation du Creben sera présente jusqu'au 9 avril.
Ah ouais, nous, alors ouais, on joue les prolongations, effectivement. Ouais. On est jusqu'au 9 avril et on en fait le finissage à nouveau avec l'Institut Convergence Migration sur une belle journée. Tu veux nous en parler peut-être, Alice ou Emeline ? la journée du 9 ?
La journée du 9, sera animée par une rencontre image et politique des Roms de la région parisienne. Au programme, une conférence performance 2 du CREBEN, qui sera du coup le 9 avril.
Et ça, c'est spectacle, hein, Thomas.
Et l'autre rendez-vous phare, le 21 mars, tu veux le présenter ?
Oui, donc merci. Donc effectivement, comme il a été dit, en fait, l'Institut Convergence Migration prend part au Printemps des Humanités qui a lieu sur le campus qu'il occupe, notamment à travers deux événements, donc un premier le jeudi 21 mars, qui commencera à partir de 17h30 par la projection d'un film documentaire, Nos poumons, c'est du béton. C'est un documentaire d'une vingtaine de minutes qui a été réalisé par le collectif de femmes d'Assovas de l'aire d'accueil d'Elem près de Lille et qui retrace le combat justement pour que soit reconnue la pollution et l'impact de la pollution des aires d'accueil sur la santé des occupants des aires d'accueil. Cette projection sera suivie ensuite d'une table ronde. Et suite à cette table ronde, nous aurons la présentation de l'installation artistique du CREBEN. Là, différents intervenants aussi prendront la parole. Stéphanie van der Toren, coordinatrice de l'enjeu inégalité sociale de santé à Santé publique France. William Acker, délégué général de la NGVC, Association de défense des droits des voyageurs aussi. Et cette table ronde, cette rencontre sera modérée par trois collègues justement de l'Institut Convergence Migration. Lamia Moussaoui, qui est sociologue, professeur des universités. Betty Roulant, qui est géographe et chercheur postdoctorante et coordinatrice du département Health, donc la santé. Et Adèle Sutre, enfin, que nous retrouvons, qui est historienne et géographe et qui est elle aussi chercheuse postdoctorante et coordinatrice du département global. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un autre événement de l'Institut qui aura lieu le 23 mars. Le festival aura lieu du jeudi donc 21 jusqu'au 23 mars. Et l'Institut est une fois de plus partie prenante de ce festival le 23 mars avec une nouvelle table ronde à partir de 14h45 sur la santé mentale des exilés. Les dimensions du prendre soin, et donc ce sera une table ronde où nous retrouverons Marie-Caroline Saglio-Yatsirminski, qui est anthropologue, psychologue et qui est directrice de l'Institut Convergence Migration, ainsi que Cybèle Agrali, qui est directrice du centre de soins du centre Primo Levi.
Ah oui, on se dit alors effectivement que les communautés migrantes sont à peu près les dernières à bénéficier d'une couverture sociale, santé, etc.
Oui. Oui, oui. Mais c'est assez intéressant et pour un peu prolonger la présentation de l'Institut, on a ce qu'on appelle une revue. Bon, c'est une revue de facto migration qui est disponible gratuitement sur le site de l'ICE Migration. Donc ICE Migration tout attaché avec un S à migration.cnrs.fr. Et donc vous pouvez vous retrouver les différents numéros de cette revue qui s'appelle De facto et où on a eu un numéro spécial coordonné par Betty Roulant sur l'aide médicale d'État. Et donc montrer à quel point cette couverture en fait qui est adressée aux personnes sans papier, qui permet de les soigner, combien elle est importante. On peut aussi faire le lien avec l'ancien projet de loi immigration, hein, où justement il était question de retirer cette couverture médicale, où notamment différents collègues ont pu expliquer pourquoi cette couverture était très importante et comment aussi cette couverture, cette AME, finalement n'est pas directement dans... C'est pas en fait la parallèle à la CMU, etc., mais c'est dans un autre régime un peu, mais qui permet aux étrangers de se soigner, et que cette question de santé, hein, mais même de toute façon on a eu des hommes politiques qui en parlaient, est une question de santé publique et qui est une question de droits fondamentaux qu'il faut évidemment défendre.
Oui. Alors, est-ce qu'une installation comme du CREBEN peut faire quelque chose pour soutenir ces communautés?
Alors, ça, je ne sais pas si on peut tout à fait nous y répondre. On espère, en tout cas, c'est une manière de prendre part au débat sur des questions de santé sociale, c'est sûr, mais sur la question de l'antitsiganisme aussi, avec les premiers concernés. Et à partir de leur angle d'approche aussi.
Moi, je dirais que leur donner un visage, c'est déjà important. Ouais.
Provoquer une rencontre. Mais alors, j'allais dire donner la parole, mais même donner la parole, il me semble que ça peut avoir quelque chose de... ça peut être une approche un peu dominante, mais en tout cas de recueillir la parole, voilà, pour essayer, au-delà de la rencontre, au-delà de tout le process du projet sur le terrain, de pouvoir en parler avec d'autres, de pouvoir se questionner, de pouvoir réfléchir à ces questions. Voilà.
C'est intéressant que tu utilises l'expression « donner un visage » parce que nous, au contraire, dans l'installation, on essaye le moins possible de montrer les visages. C'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de prendre en compte justement dans ce que tu disais tout à l'heure, Zaza, de cette question de comment représenter, comment ne pas aussi reproduire une stigmatisation. Et d'être justement dans des représentations qui sont plus de l'ordre du sensible que des images peut-être qui seraient plus représentatives
et qui pourraient mettre en danger en fait, parce que peut-être que ces gens qui sont maintenant relogés, qui enfin mènent leur barque, ont pas du tout envie d'être représentés. Oh. Pardon, c'est les
aléas. Eh oui, non, c'est intéressant, mais raconte un peu cette approche artistique du portrait ou du non-portrait que vous avez fait.
Effectivement, on a essayé de trouver toutes les pistes possibles pour que le portrait soit plus d'ordre symbolique que représentatif. Et donc le moins stigmatisant possible pour les premiers concernés qui ont participé à l'élaboration de ces œuvres en fait.
Mais pourquoi est-ce que les montrer, pourquoi est-ce que ça serait les stigmatiser en fait?
Je pense que bon, on a eu différents outils artistiques dans cette création, mais notamment l'outil photographique, il est marqué d'une histoire, notamment sur la question de la représentation des tziganes, dont je dirais pas que je suis experte, mais il y a eu cette exposition au musée de l'immigration qui en parlait beaucoup mieux. L'histoire de la photographie, elle est aussi marquée par cette prise de vue qui est pour contrôler aussi, pour stigmatiser. Et du coup, voilà, nous, on arrive avec ces outils-là et l'idée, c'est aussi de voir comment on peut s'en servir différemment. Et c'est tout ce processus dont on parlait tout à l'heure qu'on appelle co-création, dans lequel le but, c'est de créer une image ensemble et pas d'aller plus loin que cette différenciation entre la personne qui a l'appareil photo et qui prend et les personnes photographiées, enfin, de pas justement prendre une image.
D'autant que dans l'histoire de la représentation des Roms dans l'art, depuis, je sais pas, le 19e siècle, on a toujours une représentation à la fois folklorique, un peu misérabiliste, romantique et stigmatisante, en fait, qui donne une espèce d'image d'Épinal, une représentation un peu à la manière dont on ferait une image d'Épinal, et qu'on voulait essayer de s'extraire de ça le plus possible.
Et alors, qu'en est-il du titre d'Ukrben? Quand j'entends ce mot, je me demande des fois si c'est une ville en Bosnie ou est-ce que ça signifie bienvenue dans leur langue et d'où est-ce que ça vient?
Alors, bon, Ukrben, c'est un peu une blague parce que, alors, ça surf sur un stéréotype pour le coup. C'est un mot en romani qui est la langue minoritaire d'une partie des Roms, en tout cas des pays de l'Est, et ça veut dire la bonne aventure. Alors bien évidemment, l'idée, c'était de surfer sur un stéréotype qui était la dysose de bonne aventure, qu'on connaît bien, avec l'aventure humaine que sont nos projets. Enfin, s'il n'y a pas d'aventure humaine, c'est la seule chose qui produit l'œuvre, en fait, c'est l'aventure humaine. Donc voilà pour ce Ukrben. Après, ce qui est assez marrant, c'est que sur notre route, nous avons rencontré que Semir Millet, qui est juriste et cofondateur de l'association du droit des Roms, La Voix des Roms, qui en connaissait la signification, en fait. Personne sur notre route. des premiers concernés ne savaient ce que voulait dire Ducreben. Voilà, bon, alors c'est un peu la petite blague sur nos propres stéréotypes à nous et notre propre mythologie, voilà, qu'on assume. Hein, bon.
Alors, une petite pause musicale et après on va conclure. C'est Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu sans maître de la Fédération anarchiste. Et on vous présente aujourd'hui Ducreben, une installation artistique, photographique, média, dans le cadre du Printemps des Humanités. Et bon, on va conclure là-dessus. Je vous invite à nous rappeler où et quand on peut voir Ducreben et autre chose dans le cadre de ce festival. Et bon, ce qu'on n'a pas encore dit, ce qu'on a oublié de dire éventuellement.
Oui, merci. Alors, pour rappel, donc, le Printemps des Humanités aura lieu du jeudi 21 mars au samedi 23 mars 2024 sur le campus Condorcet à Aubervilliers, métro Front Populaire. C'est un festival gratuit et qui est fait pour toutes et tous. Le premier événement sera le 21 mars, une projection suivie d'une table ronde et de la présentation de l'installation Ducreben, justement au campus Condorcet.
On aura aussi le mercredi 9 avril une rencontre avec Hissène About et Adèle Sutre, images et politique des Roms de la région parisienne, suivie de la conférence performance qui accompagne l'installation Ducreben. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du festival printempsdeshumanités.fr et sur leur Instagram.
Voilà, c'est tout.
Tout est dit, Jean-Claude.
Bah, magnifique. Donc, je vous remercie d'être venu, de nous avoir invité à Ducreben et au Printemps des Humanités, donc, qui aura lieu du 21 mars au 9 avril. Et le site internet pour retrouver les informations, donc, printempsdeshumanités.fr, c'est ça?
Exactement. Et...
très bien, alors c'était Tempête sur les planches pour aujourd'hui, un peu plus bref que d'habitude. Et puis on se retrouve le 31 mars, l'émission La Tempête du 24, je dois la reporter au 31. Donc on se retrouve le 31 mars, ici dans le studio Louise Michel, et sur 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Allez, ça c'est fait.
Ouais, c'est ça.
Thank you. Thank you. Eh bien écoutez, à 15h34, on va se démarrer un mélange étendu, ici même sur Radio Libertaire, la voix sans dionymètre de la...